Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Baba Batra, page 139, Daf Kuf Lamed Tet. Bonne écoute et bon limoud.
La Gemara demande, Vatania, pourtant il est enseigné dans une braïta concernant une personne qui a légué ses biens à son fils en employant la formule à partir d'aujourd'hui et après la mort, et ce fils a vendu ses biens à une autre personne. Nous avons vu dans la Mishnah précédente que ces biens reviennent à l'acheteur uniquement après le décès du père. Alors la braïta dit là-dessus, Shamin et Amchubarin la lokeach. On évalue la valeur des fruits attachés pour l'acheteur. Autrement dit, l'acheteur devra payer la contre-valeur des fruits attachés lorsque le père est décédé aux héritiers. Nous voyons donc dans cette braïta que les fruits attachés reviennent aux héritiers légitimes et non pas aux bénéficiaires du legs. La Gemara répond, Amaroula, l'Akashia, il n'y a pas de contradiction entre notre Mishnah et notre braïta. Kan Bebno, ici dans la Mishnah, il s'agit de son fils. Autrement dit, il s'agit d'un cas où le fils n'avait pas vendu ses biens. Au décès de son père, ils lui reviennent. Nous estimons que le père était généreux avec son fils et lui accordait même les fruits attachés lors de son décès. Kan Beacher, alors qu'ici dans la braïta, il s'agit d'une autre personne. C'est-à-dire, comme nous l'avons dit, il s'agit d'un cas où le fils a vendu ses biens à une autre personne. Donc, au décès du père, ses biens reviennent à l'acheteur. Dans ce cas, nous estimons que l'intention du père était de laisser les fruits attachés à ses héritiers légitimes et non pas à l'acheteur. Et cela parce que Vedato chez la dame, Krova et Selbeno. La pensée du père est proche de son fils. Autrement dit, comme nous l'avons dit, nous estimons que le père était généreux avec son fils et lui a accordé même les fruits attachés lors de son décès. Nouvelle Mishnah. Hiniar banim gdolim uktanim. Si une personne est décédée et a laissé des grands-enfants et des petits-enfants, en hagdolim mitparnesin alide aktanim. Les grands ne pourront pas pourvoir à leurs besoins, par exemple en habits, sur le compte des petits, velo aktanim nizonim alagdolim. Et les petits ne seront pas nourris sur le compte des grands. C'est-à-dire, puisque nous savons que les grands ont plus de dépenses pour s'habiller et les petits ont plus de dépenses pour se nourrir, le tribunal ne permettra pas que l'héritage reste sans être partagé de manière à ce que chacun des enfants se serve ce dont il a besoin, même si l'un prend plus que l'autre. Et là, cholkin beshavé, plutôt, l'héritage sera partagé équitablement et chacun utilisera sa part selon ses besoins. Nas'u hagdolim, si les grands se sont mariés avant le partage de l'héritage et se sont servis dans l'héritage pour payer le mariage, yis'u haktanim, les petits pourront aussi exiger de se marier de la même manière, donc de payer le mariage avant le partage. Ve'im amru ktanim, mais si les petits ont dit, hare anu nosim, nous voulons nous marier, donc payer notre mariage, kederech shenasatem atem, de la même manière que vous vous êtes mariés du vivant de notre père, autrement dit, de la même manière que notre père vous a payé le mariage, nous voulons que notre mariage soit payé de l'héritage avant son partage, en shomim lahem, on ne les écoute pas, leurs revendications ne seront pas acceptées. Et la machinatan lahem abihem, natan. Plutôt nous dirons que ce que leur père leur a donné donc au grand de son vivant, c'est donné. Les autres enfants ne peuvent rien exiger de leur père, donc ne peuvent pas non plus exiger que leur mariage soit payé de l'héritage avant le partage de celui-ci. Hiniach banot gdolot uktanot. S'il a laissé après sa mort des grandes filles et des petites filles, en hagdolot mitparnesot alede aktanot. Les grandes filles ne pourront pas pourvoir à leurs besoins en vêtements, par exemple, sur le compte des petites, velo haktanot nizonot alagdolot. Et les petites ne seront pas nourries sur le compte des grandes, comme nous l'avons expliqué précédemment. Et là, cholkot beshavé, plutôt, l'héritage sera partagé équitablement, et chacune utilisera sa part selon ses besoins. Nis'u gdolot, si les grandes filles se sont mariées avant le partage de l'héritage, en payant le mariage de l'héritage, yis'u ktanot, les petites pourront aussi se marier en exigeant que leur mariage soit payé de l'héritage avant son partage. V'im amru ktanot, mais si les petites ont dit, hare anu nos'ot, nous voulons nous marier, kederech shenasatem atem, de la même manière que vous vous êtes mariés du vivant de notre père, autrement dit, nous exigeons que notre mariage soit payé de l'héritage de la même manière que notre père vous a payé aussi votre mariage, en shomin lahem, on ne les écoute pas, leurs revendications ne seront pas acceptées, comme nous l'avons expliqué. Ze chomer bebanot mi bavanim. Voici un endroit où la loi est plus avantageuse pour les filles que pour les garçons. Shehabanot nizonot alabanim, parce que comme nous le verrons au début du prochain perek, les petites filles sont nourries sur le compte des garçons, c'est-à-dire parce que dans la Ktouba, le mari s'engage à ce que ses filles soient nourries de ses biens jusqu'à ce qu'elles grandissent. Par conséquent, le tribunal évaluera quelle est la somme nécessaire pour nourrir les filles jusqu'à ce qu'elles atteignent la majorité, et le reste sera partagé entre les garçons. Ve'en nizonot alabanot, par contre, les petites filles ne sont pas nourries sur le compte des autres filles. C'est-à-dire, si le père n'a laissé que des filles, par conséquent, ce sont ses filles qui sont ses héritiers légitimes, dans ce cas, l'engagement de nourrir les petites filles ne s'applique pas, puisque celles-ci sont aussi héritières. Par conséquent, comme nous l'avons vu ici dans la Mishnah, les petites filles ne sont pas nourries sur le compte des grandes filles, mais l'héritage sera partagé équitablement entre toutes les filles. En Lagmaradi, Amarava, Hay Gadol Ache de la Vache Virse Mi Beta, le plus grand des frères qui s'est vêti et s'est couvert d'habits en prenant de l'argent de l'héritage avant son partage, Maïde Avad Avad, ce qu'il a fait est fait, autrement dit, il n'a pas besoin de le rendre. Et cela parce que nous estimons que les autres héritiers tireront un bénéfice du fait que le plus grand des frères est bien habillé. En effet, les paroles d'une personne bien habillée sont mieux écoutées. Il pourra donc facilement faire de bonnes affaires, ce qui est à l'avantage des héritiers. C'est pour cela donc qu'il n'aura pas besoin de rendre ce qu'il a pris, mais en fait, il n'a pas le droit de le faire. Alors la Gemara demande, « Veha anantnan, pourtant nous avons enseigné dans notre Mishnah, « En hagdolim mitparnesim alaktanim, les grands ne peuvent pas pourvoir à leurs besoins, par exemple en habits, sur le compte des petits. » Nous voyons donc bien que les grands n'ont pas le droit d'acheter de quoi s'habiller sur le compte de l'héritage. Agma répond, Matnitin Besarcha. La Mishnah parle d'un chômeur. Dans ce cas, les héritiers ne tireront aucun bénéfice du fait qu'il est bien habillé, mais c'est pour cela donc qu'il n'a pas le droit de s'habiller sur le compte des petits. Alors l'Agma demande, Sarcha, s'il s'agit d'un chômeur, Pshita, c'est évident. Quel est donc le chidouche de la Mishnah? L'Agma répond, Maoud et Tema, on aurait pu croire, Nichalehu de l'Oninval, que les héritiers sont intéressés à ce que les grands frères soient bien habillés pour ne pas porter de honte à la famille. Kamash Malan, c'est pour cela que la Mishnah nous enseigne que les grands n'ont pas le droit de s'habiller sur le compte des petits. Mais s'il s'agit d'un grand frère qui travaille aussi pour les petits, s'il s'est habillé sur le compte des petits, il n'aura pas besoin de rendre ce qu'il a pris. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Nas ugdolim yis uktanim ». Si les grands se sont mariés, les petits aussi se marieront. La Mishnah continue « Mais si les petits disent, nous voulons nous marier de la même manière que vous vous êtes mariés, on ne les écoute pas. » Alors la Gemara demande, Maïka Amar, qu'est-ce que la Mishnah a voulu dire? Parce que si nous prenons les mots de la Mishnah à la lettre, ces deux parties de la Mishnah se contredisent. La Gemara répond, Amar Rabbi Yehuda, Harika Amar, c'est cela que la Mishnah a voulu dire. Nas ugdolim la'achar mitat aviem, si les grands se sont mariés après la mort de leur père, yis uktanim la'achar mitat aviem, les petits se marieront aussi après la mort de leur père sur le compte de l'héritage, comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah. Aval nas ugdolim bechaya aviem, mais si les grands frères se sont mariés du vivant de leur père, ve'amru ktanim, et les petits ont dit la'achar mitat aviem, après la mort de leur père, hare anu nos'im keder shenasatem atem, nous voulons nous marier comme vous vous êtes mariés sur le compte de notre père. Ils veulent donc prendre de l'héritage, de quoi payer le mariage avant le partage. Alors là-dessus, la Mishnah dit, En shomin lahem, on ne les écoute pas. Et là, ma shenatan lahem avien natan. Seulement, nous dirons que ce que leur père leur a donné, donc aux grands de son vivant, il leur a donné. Mais les petits ne peuvent pas exiger de recevoir la même somme après la mort de leur père, sous prétexte que les autres frères ont reçu la même somme avant la mort de leur père. Et cela parce que si de son vivant, le père peut donner ce qu'il veut à l'un de ses enfants, après sa mort, l'héritage devra être partagé équitablement. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, Hiniach banot gdolot uktanot, s'il a laissé des grandes filles et des petites filles, etc. Alors la Gemara dit là-dessus, Shalach le, avuha bar gneva le rava. Avuha, le fils de Gneva, a envoyé la question suivante à Rava. Yelamdenu rabenu, que notre maître nous enseigne. Autrement dit, qu'il nous réponde à la question suivante. Lavda ve'achla, si une femme a emprunté de l'argent sans écrire de reconnaissance de dette, puis elle a dépensé cet argent, ve'amda ve'niset, puis elle s'est mariée, et elle a donné tous ses biens à son mari, comme toute femme mariée. En effet, le mari devient usufruitier de tous les biens de sa femme, c'est ce qu'on appelle l'enirsemilug. La question se pose, ba'al lokeach ave, Oyoresh Ave. Est-ce que le mari est considéré comme étant un acheteur ou est-ce qu'il est considéré comme étant un héritier? La Gemara précise, Lokeach Ave, est-ce que nous considérons le mari comme étant un acheteur ou Milve Alpe et Nogove Minal Kuchot? Et nous savons qu'un créancier, lorsqu'il s'agit d'une dette orale sans reconnaissance de dette, ne peut pas saisir les biens qu'ont acheté les acheteurs. Odinma, ou bien est-ce que nous dirons Yoresh Ave, le mari est considéré comme étant un héritier, ou Milve Alpe, Gove Mina Yoshim. Et le créancier, lorsqu'il s'agit d'une dette orale sans reconnaissance de dette, peut saisir les biens des héritiers. Donc là aussi, le créancier pourra se présenter chez le mari pour réclamer le remboursement de sa dette. À Marley, Rava lui a répondu, Tanina, nous avons enseigné la réponse dans notre Mishnah. Nis'u Gdolot, si les grandes filles se sont mariées, en payant les dépenses du mariage de l'héritage avant son partage, Yis'u Ktanot, les petites se marieront de la même manière, en payant le mariage de l'héritage. My love, n'est-ce pas que c'est cela que la Mishnah a voulu nous enseigner, Nis'u Gdolot, la Baal, si les grandes filles se sont mariées avec leur mari. Et puis, comme l'explique le Shita Mukubetset au nom du Tosfot Arosh, ces grandes filles ont emprunté la part qui revenait aux petites filles pour payer leur mariage, et les filles elles-mêmes ont donné leur part à leur mari en tant que Nirse Milug. Le mari est donc devenu l'usufruitier de ses biens. Et la Mishnah conclurait là-dessus, Yis'u Ktanot Mibaal, les petites filles se marieront en retirant l'argent du mari, c'est-à-dire en récupérant leur part que leurs sœurs ont emprunté, en saisissant les biens qui se trouvent chez le mari. Nous voyons donc clairement que le mari est considéré comme étant un héritier qui rembourse même les dettes orales. L'Agma répond, l'eau. Non, ce n'est pas une preuve. Plutôt, c'est ainsi qu'il faut comprendre la Mishnah. Nis'u Gdolot Labaal. Si les grandes sœurs se sont mariées avec leur mari, en prenant de l'argent de l'héritage avant son partage pour payer leur mariage, Nis'u Ktanot Labaal, les petites sœurs se marieront aussi avec leur mari, en prenant de l'argent de l'héritage avant son partage pour payer leur mariage. Mais il se peut que si les grandes sœurs ont emprunté la part qui revenait à leur petite sœur, le mari n'a pas l'obligation de rembourser. La Gemara demande, Eni, ce n'est pas vrai. Behatane Rabbi Chia, pourtant Rabbi Chia a enseigné, Nis'u Gdolot Labaal, si les grandes filles se sont mariées avec leur mari, en empruntant la part de leur petite sœur pour payer le mariage, et ils ont donné leur part à leur mari en tant que Nirse Milug, Yis'u Ktanot Mibaal, les petites sœurs se marieront en récupérant leur part, en saisissant les biens qui se trouvent chez le mari. Nous pouvons donc prouver de l'enseignement de Rabbi Chia que le mari est considéré comme étant un héritier. La Gemara répond, Dilma Shani Parnasa, peut-être que pour les dépenses du mariage, c'est différent. Dites-la Kala, parce que cela fait du bruit. C'est-à-dire la raison pour laquelle l'acheteur ne doit pas rembourser les dettes orales sans reconnaissance de dette, c'est parce qu'il ne pouvait pas savoir au moment où il a acheté ses biens que le vendeur était endetté. Mais dans le cas d'une femme qui a emprunté l'argent de ses petites sœurs pour les dépenses de son mariage, c'est une chose qui fait du bruit. Nous estimons donc que le mari savait au moment du mariage que sa femme avait cette dette envers ses petites sœurs. En acceptant les biens de sa femme, il s'est engagé à rembourser cette dette. Mais lorsqu'il s'agit d'une autre dette qui ne fait pas de bruit, le mari ne pouvait pas savoir donc que sa femme était endettée. Même en acceptant les biens de sa femme, il ne s'est pas engagé à rembourser ses dettes. À Marley, Rav Papa le Rava, Rav Papa a dit la chose suivante à Rava, Lav Hainu de Shalach Ravin Beigarte, est-ce que ce cas ne ressemble pas à l'enseignement que Ravin a envoyé dans sa lettre? Il s'agit de l'enseignement suivant. Mishemet, celui qui est mort, Veinia Chalmana Ubat, il a laissé une veuve et une fille. Donc sa fille est son héritière, mais il s'est engagé dans la Ktuva de nourrir sa veuve jusqu'à ce qu'elle se remarie ou jusqu'à ce qu'elle exige le paiement de sa Ktuva. En l'alakha et Almanato Nizonet Minchasav, sa veuve sera nourrie de ses biens qu'elle saisira de la fille. Niset Habat, si la fille s'est mariée, Almanato Nizonet Minchasav, quand même sa veuve continue à être nourrie de ses biens. Meta Habat, si la fille est morte, c'est son mari qui est son héritier légitime. Amar Rabbi Yehuda ben Achoto shel Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina. Rabbi Yehuda, qui était le fils de la sœur, donc le neveu de Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina, a dit la chose suivante. Al yadi haya maase. Une histoire s'est passée justement avec moi. Donc sa femme était décédée et sa mère qui était veuve exiger la pension alimentaire. Ve'amrou, et les Chachamim ont dit là-dessus, Almanaton izonet min chassav, la veuve continue toujours à être nourrie par ses biens, donc par les biens qui ont été laissés par son mari. Alors Rafa dit, Yamart bishlama yoreshave, on comprend bien encore si nous disons que le mari est considéré comme étant un héritier, Mishum Hachi, Almanaton izonet min chassav, c'est pour cela que nous disons que la veuve continue à être nourrie de ses biens, même après la mort de la fille qui était héritière, et c'est son mari qui l'a hérité. Et là, Yamart lokeachave, mais si tu considères le mari comme étant un acheteur, Amayn izonet min chassav, pourquoi est-ce que la veuve est toujours nourrie par ses biens après le mariage de la fille, alors qu'après le mariage, nous considérons que le mari a acheté tous les biens appartenant à la femme, alors qu'il est enseigné dans une Mishnah dans Masechet Gittin Daf Memchet, qu'on ne peut pas saisir des biens qui ont été vendus pour le paiement de la pension alimentaire de la veuve. Nous pouvons donc déduire de cet enseignement envoyé par Ravine dans sa lettre que le mari est considéré comme étant un héritier. Amar Abaye, Abaye a dit là-dessus, il lave de Shalach Ravine. Si Ravine n'avait pas envoyé cette lettre, Anan Loyadinan, est-ce que nous ne savions pas que le mari est considéré comme étant un héritier? Behatnan, pourtant il a été enseigné dans une Mishnah dans Masechet Bechorot Daf Nunbet Amudbet, Elu Hen She'en Chozrin Bayovel. Voici les biens qui ne retournent pas à l'ancien propriétaire à l'année du Yovel, qui est la 50e année. C'est-à-dire, le Passouk nous enseigne dans Parashat Béar que tout terrain acheté retourne à son ancien propriétaire à l'année du Yovel. Cependant, il y a certaines exceptions. En la première, c'est Habechora, c'est la deuxième part que l'aîné a reçue. La Torah appelle cette deuxième part, donc la part qui revient à l'aîné, un cadeau, qui ne retourne pas à son ancien propriétaire. Donc l'aîné ne devra pas rendre la deuxième part qu'il a reçue à ses autres frères.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Ve'hayoresh et ishto est celui qui a hérité de sa femme. Il ne devra pas rendre ce qu'il a hérité de sa femme, donc aux héritiers légitimes de sa femme, par exemple ses frères ou les autres membres de sa famille. Et cela parce que l'auteur de cette Mishnah pense que c'est Minatora que le mari hérite sa femme. Alors cela, nous pouvons le dire uniquement si le mari n'est pas considéré comme étant acheteur du vivant de sa femme. Mais s'il est considéré comme étant acheteur du vivant de sa femme, son statut ne changera pas à sa mort. Par conséquent, il devra obligatoirement rendre les biens de sa femme aux membres de sa famille, voire le Ha'elet HaShachar. Finalement, nous pourrons prouver donc de cette Mishnah que le mari est considéré comme étant l'héritier des biens de sa femme, même de son vivant. Amar le Rava, Rava a répondu à Abaye, Ve'hashtar de Shalach, et maintenant que Ravine a envoyé cette lettre, Miadinan, est-ce que nous savons si le mari est considéré comme étant héritier ou acheteur? Ve'ha Amar Rabbi Yossi Rabbi Hanina, pourtant Rabbi Yossi Rabbi Hanina a dit, Be'ushaïd Kinu, les Chachamim ont institué, lorsque le tribunal suprême a siégé dans la ville de Usha, Ha'isha Shemachra, selon le Bach, nous lisons ici, Benirse Milug, Bechaye Bala, une femme qui a vendu du vivant de son mari des biens appelés Nirse Milug, dont le mari est l'usufruitier, cette vente prendra effet en cas de décès du mari ou de divorce. Ou Meta, puis la femme est décédée du vivant du mari, Habal Motsi Miyad al-Kuchot, le mari retirera ses biens des mains des acheteurs. Autrement dit, la vente est annulée. Et cela, bien que la femme soit nue propriétaire de ses biens, et elle avait donc le pouvoir de les vendre à quiconque. Maintenant, si nous considérions le mari comme étant un simple héritier, on devrait dire qu'il n'hérite que ce que la femme possède à son décès. Forcément, nous pouvons prouver de là que le mari est considéré comme étant un acheteur, et puisque c'est lui le premier acheteur, ses biens lui reviennent de droit. La femme a uniquement le pouvoir de vendre ses biens pour le cas où son mari mourrait avant elle, ou bien pour le cas d'un divorce. En tout cas, nous avons finalement une contradiction, parce que d'une part, nous considérons le mari comme étant un héritier, comme nous le voyons de l'enseignement de Ravine, et d'autre part, nous le considérons comme étant un acheteur. Et là, Amar Ravashi, c'est pour cela que Ravashi dit, Baal Shavyuhu Rabbanan Kioresh, les Chachamim ont considéré le mari comme étant un héritier, Ve Shavyuhu Rabbanan Kelokeach, et les Chachamim l'ont aussi considéré comme étant un acheteur. Vehecha de Tavale Abdoulé. Ils ont fait à chaque fois ce qui est bon pour le mari. Par conséquent, Gabe Yovel, concernant le Yovel, à savoir si le mari doit rendre ce qu'il a hérité de sa femme. Shaviu Rabbanan Kioresh, les Chachamim le considéraient comme étant un héritier, qui ne doit pas rendre donc ce qu'il a hérité, Mishum Psedadide, à cause de ce qu'il risque de perdre, si nous le considérions comme étant un acheteur. Gabé de Rabbi Yossi de Rabbi Hanina, concernant l'enseignement de Rabbi Yossi de Rabbi Hanina, que le mari a le pouvoir d'annuler la vente de sa femme après le décès de celle-ci, Shaviuhu Rabbanan Kelokeach, les Chachamim l'ont considéré comme étant un acheteur, et c'est pour cela donc qu'il a le pouvoir d'annuler cette vente, Mishum Psedadide, à cause de ce qu'il risque de perdre s'il était considéré comme étant un héritier, comme nous l'avons expliqué. Gabé de Ravin, concernant l'enseignement de Ravin, selon lequel la veuve continue à recevoir sa pension alimentaire même lorsque la fille s'est mariée, Mishum Psedad Almana, à cause de ce que risque de perdre la veuve, Shaviuhu Rabbanan Keoresh, les Chachamim l'ont considéré comme étant un héritier qui doit continuer à payer la pension alimentaire. Et cela parce que l'engagement de verser la pension alimentaire à la veuve existait encore avant le mariage. C'est pour cela que dans ce cas, les Chachamim n'ont pas considéré le mari comme étant un acheteur au détriment de cette veuve. La Gemara demande, Beha Gabé de Rabbi Yossi de Rabbi Hanina, pourtant concernant l'enseignement de Rabbi Hanina, selon lequel le mari peut annuler la vente de sa femme après le décès de celle-ci, Deika Psedal El Kuchot, où les ses acheteurs perdent dans l'affaire, Veshavihu Rabbanan Kelokeach, et quand même les Chachamim ont considéré le mari comme étant un acheteur au détriment des autres acheteurs. L'Agma répond, Hatam Inhu Absidu Anafshayu. Là-bas, ces autres acheteurs se sont causés eux-mêmes leur perte. Kivan Deika Baal, parce que puisque le mari existait, Lo Ibaelehu le Mizban Miiteta, il n'avait pas acheté ses biens de cette femme, Deatva Tute Gavra, alors qu'elle se trouve avec son mari. Autrement dit, puisque ses biens étaient destinés à appartenir au mari après le décès de sa femme, il n'avait donc pas à acheter ses terrains, ce qui porterait un préjudice au mari. C'est pour cela donc que les Chachamim ont renforcé les droits du mari, lui accordant le droit d'annuler cette vente au détriment des acheteurs. Alors finalement, puisque le fait de considérer le mari comme étant héritier ou acheteur dépend de ce qu'il y a ou non d'autres personnes qui perdent dans l'affaire, parce que comme nous l'avons dit, s'il existait des engagements avant le mariage, comme dans le cas de la veuve, nous considérons le mari comme étant héritier, ces engagements ne sont pas annulés. Alors là aussi, dans le cas de la femme qui empruntait de l'argent avant son mariage, nous considérons le mari comme étant héritier, il devra donc rembourser ses dettes. Hadran alach yesh nochalim, nous avons terminé ici l'étude du 8e perek. Nous avons fini ici aussi le shiur de Baba Batra Daf Kuflamedtet.
Perek mishemet, dans ce perek vont être traités les problèmes monétaires par rapport aux propriétés laissées par une personne décédée, soit l'utilisation faite automatiquement de ses biens, soit l'utilisation suite à son testament. Comme nous avions vu dans le pérec précédent, lorsqu'une personne décède, ses fils l'héritent et pas ses filles lorsqu'il y a des garçons. Cependant, comme l'on voit dans Ketuvot, parmi les conditions automatiques de la Ketuvah d'une femme, apparaît la clause que le mari s'engage à nourrir ses filles, même après son décès, jusqu'à ce qu'elles atteignent leur majorité ou bien qu'elles se marient. Nous allons voir dans la Mishnah maintenant comment concilier ces deux règles, l'héritage des garçons et la nourriture des filles qui s'appellent Mezonot Habanot. La Mishnah dit, Mi Shemet, si une personne est décédée, Veniach Banim ou Banot, et il a laissé des garçons et des filles orphelins, Bizman Shanachasim Rubin, s'il a laissé une grande quantité de biens, la Gemara va expliquer de quelle quantité s'agit-il. Habanim Yirshu, les fils vont hériter ces biens. Habanot Yazunu, et les filles vont également être nourries de ces biens jusqu'à leur majorité. Nechasim Muatin, s'il a laissé une petite quantité de biens, dans ce cas-là, Habanot Yazunu, les filles seront nourries jusqu'à leur majorité. Habanim Yishalu Alaptachim, et les fils iront mendier aux portes pour être nourris. Admon Omer, Admon dit, Bishvil Shani Zachar Ipsadati, est-ce que parce que je suis un garçon, je perdrai dans les biens qui ne sont pas de grande quantité? La Gemara va expliquer quelle est l'intention de son exclamation. Amar Rabban Gamliel a dit, Roé Ani et Divré Admon, les paroles d'Admon me semblent justes. La Gemara demande, Vekama Merubin, quelle quantité de biens s'appelle une grande quantité pour que les garçons puissent hériter une partie? Amar Rav Yuda Amar Rav, Rav Yuda a dit au nom de Rav, Kedesh Sheyazunu Mehen Elu Va'elu Shenem Asar Chodesh. S'il y a assez de biens pour que soit les garçons, soit les filles soient nourris de ces biens pendant 12 mois, cela s'appelle une grande quantité. Ki Amrita Kamed Ishmoel, Rav Yuda continue, lorsqu'après le décès de Rav, je suis venu étudier la Torah devant Shmuel et je lui ai répété les paroles de Rav, Amar, Shmuel a dit à ce sujet, Zou divrei Rabban Gamliel bar Rabbi. Ce que Rav a dit, c'est l'opinion de Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yuda Anassi, qui a compilé les Mishnayot. Aval Chachamim Omrim, mais les Chachamim, eux, pensent que Deshe Yazunu Mehen Elu Va Elu Ache Ibagru. Une grande quantité de biens s'appelle uniquement s'il y a assez de quoi nourrir soit les garçons, soit les filles, jusqu'à leur majorité respective, 13 ans pour les garçons, 12 ans pour les filles. Itmar Nami, il a également été dit, Ki ata Ravin, Amar Rabbi Yochanan, lorsque Ravin est venu d'Eretz Israël en Bavel, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Ve Amrela, et certains disent, Amar Rabba Barbar Chana, Amar Rabbi Yochanan, que c'est Rabba Barbar Chana qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, Kol Sheyazunu Mehen Elu Ve Elu Ad Sheyibagru, s'il y a assez de biens pour que soient nourris de ces biens, soit les garçons, soit les filles, jusqu'à leur majorité, hen rubin, dans ce cas-là, ça s'appelle une grande quantité de biens. Pachot mikan, si la quantité de biens est inférieure à cela, har elu muatim, cela s'appelle des biens de petite quantité. La Gemara demande, ve'i leka le'elu ve'elu ad sheyibagru, s'il n'y a pas assez de biens pour que soit les garçons, soit les filles soient nourris jusqu'à leur majorité.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.